Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonsoir. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Pour commenter cette actualité, bien vous savez avec qui je suis, vous pouvez le deviner si vous nous suivez. Bien sûr avec Jean-François Mignard de la Ligue Nationale des Droits de l'Homme, avec Pierre Larouille, économiste et essayiste. Et bien sûr, votre serviteur avec Jean-Loup à la technique, à la console comme toujours. Alors, au monument de littérature, Philippe Roth nous a quittés, comme il aimait à le répéter lorsqu'il a pris la décision de cesser d'écrire « The show is over ». Hein, autrement dit, vous avez vu, vous m'avez compris, le spectacle est fini. Il nous laisse une œuvre à lire ou à relire, et donc de subtils plaisirs. Et puisque nous sommes dans des émissions de commentaires politiques, retenons de lui ce jugement définitif sur son président, et je le cite, « Trump n'est personne, c'est un pur voyou, odieux et ignorant », fermez les guillemets. Voilà, je pense que tout est dit, il est parti là-dessus. Absolument, mais parlez dans le micro, Jean-François Mignard, parce que sinon on ne va pas vous entendre.
Ce qui serait dommage.
Absolument, ça nous manquerait. Alors, plusieurs sujets aujourd'hui, mais on va commencer, et ça ne vous étonnera pas, par le premier, sur la situation italienne. Alors, nos amis italiens avaient voté, il fallait bien que l'élection se traduise, et le résultat de l'élection se traduise par la désignation d'un Premier ministre. Alors, on a désigné Giuseppe Conte, illustre inconnu, qui était en charge de former un gouvernement. Alors, après des semaines de tractations, cela semblait être chose faite. Les négociations ont abouti à ce qui paraissait être un programme de gouvernement entre deux formations que rien ne rapproche, la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles, qui se veut une formation anti-système, qui demeure relativement inclassable, avec aucune ligne idéologique claire, surfant sur toutes les tendances et attrapant tous les déçus de la politique traditionnelle. Et nous savons que c'est là un réservoir difficilement épuisable. Une espèce d'alliance de la carpe et du lapin, dont on peut légitimement se demander combien de temps elle va perdurer. Pour être franc, on n'attendait pas ce résultat des élections italiennes, ou à tout le moins, on espérait qu'il ne se produirait pas. Comme on n'attendait d'ailleurs pas d'autres, comme à commencer par l'élection de Trump. Malheureusement, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Italie s'inscrit dans un scénario européen de recomposition politique qui mêle dégagisme et rejet de l'austérité économique, et un phénomène qui avait déjà touché un certain nombre de pays de l'Est, Hongrie, Pologne, Tchéquie et Autriche, un peu plus proche de nous. Dans tous ces pays se sont installés au pouvoir des formations populistes, souvent élues d'ailleurs, il faut le remarquer, avec une majorité relativement confortable. Elle présente au moins deux caractéristiques, des discours ouvertement nationalistes et de plus en plus de convergence, pour ne pas dire de porosité, ce qui paraît être dans certaines circonstances un euphémisme, avec l'extrême droite. En Italie, troisième économie européenne et pays où fut signé le traité de Rome en 1957, la pilule a un peu plus de mal à passer. Et les autres pays, tels au moins Paris et Berlin, observent la situation avec des craintes qui s'affichent de plus en plus ouvertement. On a entendu d'ailleurs Bruno Le Maire qui faisait une espèce de rappel au respect des règles européennes, aussitôt recadré d'ailleurs par le président du parti d'extrême droite, Matteo Salvini. Mais l'inquiétude des pays du noyau dur européen n'est pas sans fondement, surtout lorsqu'on considère l'effarant programme économique de la coalition, sachant que le déficit de la péninsule atteint déjà 132% du PIB, c'est-à-dire 2,3 milliards, ce qui, excusez du peu. Lorsqu'on lit que le nouveau gouvernement va instaurer un impôt sur le revenu à taux unique de 15% pour les particuliers et de 20% pour les entreprises, c'est déjà assez surprenant. Et lorsqu'on apprend également qu'il veut mettre en place un revenu citoyen de 780 € par mois pour les chômeurs et les personnes âgées, là, on se gratte un peu la tête, ça donne le vertige et surtout, on se demande qui va payer. Alors, l'Europe peut-être, mais est-ce que l'Europe en a envie? Est-ce que nous en avons envie? On a déjà eu la Grèce, mais là, tout ça pourrait aller beaucoup plus loin. Et notre responsabilité, quand même, notons-le, dans cette affaire, n'est tout de même pas exclue. N'oublions pas que les partis au pouvoir, ils sont peut-être arrivés parce qu'ils ont promis d'expulser du pays 500 000 migrants. Une Italie à l'époque très europhile, mais que l'on a laissée seule face à l'afflux des migrants sur ses côtes. Les Italiens ont appelé au secours, bien sûr. Personne ne leur a répondu. Surtout pas d'ailleurs le toujours inspiré ex-président Hollande. Et du coup, ils sont devenus europhobes. Et certains, peut-être, veulent même sortir de l'euro, puisqu'il y avait un potentiel ministre de l'économie italienne qui voulait, lui, virer l'euro pour revenir à la lire. Bref, une Europe passablement bousculée par des tensions internes et en manque de leaders crédibles, et qui vient de se découvrir un nouveau problème, et non des moindres. Mais cette situation déjà passablement complexe vient de s'embrouiller encore plus, puisque la formation du nouveau gouvernement a échoué, on a vu ça dimanche. Conte a rendu son tablier au président de la République, Sergio Mattarella, lequel avait refusé de nommer un ministre des Finances, que j'évoquais tout à l'heure, notoirement eurosceptique et anti-euro, ce d'autant plus que dans la campagne, personne n'avait abordé cette question, et qu'il a estimé qu'il fallait peut-être interroger les électeurs. Alors, suite au prochain numéro, certainement après deux nouvelles élections qui pourraient venir à l'automne prochain, puisqu'entre-temps, un gouvernement dit de technicien, ce qui est toujours inquiétant, va administrer l'Italie. Alors, sur cette question, qui veut commencer ? Allez, Pierre Larouille a pris une inspiration même d'ailleurs, et on va voir s'il est vraiment inspiré.
Non, je ne suis pas inspiré du tout, je suis inquiet. C'est divorce à l'italienne, effectivement. Je pense que tout ça nous amène en octobre à un retour de l'illustrissime Berlusconi, qui pourrait venir départager tout le monde et être acceptable par tout le monde, ce qui dénote quand même un climat politique un tout petit peu paradoxal. C'est inquiétant parce qu'il y a effectivement, il y a cette réaction au phénomène des migrants qui montre qu'en fait, aujourd'hui, s'il y a des crises un peu dans toute l'Europe, si le populisme monte à ce point-là, c'est parce que domine, pas toujours pour les mêmes raisons, un sentiment d'abandon des peuples, un abandon face... justement à cette distance de l'Europe qui n'est pas assez proche d'elle, une perte de repères, ce phénomène effectivement de migration extrêmement forte dont on sait qu'elles vont se poursuivre avec les problèmes climatologiques notamment. Comme le disait Merkel, et on le repère aujourd'hui, citait François Hollande qui lui-même le dit dans son bouquin, il y a aussi une crainte dans ces technologies qui s'imposent et qui semble rompre avec des équilibres anciens. Bref, il y a une mutation profonde qui trouble beaucoup les gens et qui leur donne un sentiment profond d'abandon. Et je serais tenté de dire que c'est assez paradoxal, mais nous sommes tous des migrants dans cette société en mutation. Et le pire, c'est que les migrants dont nous parlons normalement, eux au moins ont un espoir, souvent déçus, hélas, mais ils ont un espoir.
Très souvent.
Très souvent.
Sauf à grimper au quatrième étage.
Mais je note quand même que Pierre Larouille fait ses courses chez Leclerc, puisqu'il a cité le livre du président Hollande.
Non, il me l'a envoyé.
Avec une dédicace.
mais tout ça dénote quand même un climat particulier. Je dois dire, je ne crois pas que ça soit extérieur au débat. J'écoutais M. Ruffin l'autre jour sur BFM avec M. Bourdin. Et quand il était interrogé pour savoir s'il visait la présidence de la République, ça ne l'a pas dérangé de dire « Oh, ben moi, je suis très intéressé par toutes les aventures, celle-là, pourquoi pas ?» Et je me dis qu'effectivement, il y a quand même un drôle de climat dans les pays européens aujourd'hui. Et je crois qu'il serait temps que se remette en place une petite langue, une petite musique politique. Je ne sais pas si les élections européennes qui s'annoncent pourront le faire. Je crains que ça soit le contraire. Et quand on voit les sondages et les premiers sondages qui sont sortis sur les élections européennes, on se dit que le débat va être très chaud.
Alors que nous disent ces sondages, puisque vous avez des infos que nous n'avons pas dites, nous.
Oh, ce sont des sondages tout à fait publics qui donnent, je crois, la majorité présidentielle à 34, M. Wauquiez à 11, le Front National et Mélenchon à 11 ou 12 ou quelque chose comme ça. Monsieur Hamon...
à 6% normalement.
Non, beaucoup plus que ça. Je crois qu'il est à 10, 11.
Ah oui,
comment ? Et c'est le PS, ceci dit, c'est Moscovici qui est testé à 7. Donc tout ça donne un climat, on a l'impression évoqué. Visiblement, pour l'instant, n'imprime pas, mais il reste 18 mois ou plus d'un an, on verra.
Jean-François Mignard.
Oui, je suis aussi inquiet que Pierre Laroui sur ce qui est en train de se passer. Il faudrait mettre dans le contexte deux pays qui sont des pays dont on va parler certainement, que sont l'Espagne, avec ce qui est en train de se passer, notamment la motion de censure du PSOE face au gouvernement du Partido Popular et de Rajoy, qui risque de faire évoluer aussi quelque chose du côté de l'Espagne. Complètement, me semble-t-il, dans un autre registre, ce qui se passe en Italie ou et ce qui se passe au Portugal, dont on n'entend pas parler, mais qui est extrêmement intéressant, semble-t-il, sur des alternatives qui sont mises en œuvre au modèle qui est le modèle économique européen de la concurrence libre et non faussée, dont on voit quand même, au travers de l'Italie, les limites et le niveau de décomposition. Je ne veux pas jouer les Cassandres, depuis quelques émissions je le fais, mais il me semble que la décomposition se poursuit. Se sentent abandonnés. Il y a des gens aussi qui sont en colère. Moi, je ne fais pas partie des gens qui je ne me sens pas abandonné par l'Europe, j'en profite, je suis classe moyenne, je surfe, j'ai des enfants qui sont ouverts sur l'économie, qui sont flexibles, etc., etc. Mais je suis très en colère contre ce que l'Europe est devenue, le projet européen, de ce qu'il a pu être, même sur son versant qui était le versant démocrate-chrétien à l'origine du projet européen. J'ai vraiment l'impression que ce projet-là, dont on aurait pu imaginer qu'il aurait pu évoluer, et qui se perd dans les sables de l'impuissance politique, et quand même de la soumission. Alors, ouais, on est au libéralisme, je vais le dire comme ça, je veux pas non plus. Et c'est pas étonnant, effectivement, que des gens se méfient, voire commencent à haïr cette Europe-là, dont par ailleurs, bien sûr, qu'on charge de tous les maux au niveau des gouvernements nationaux, dès qu'on a un problème, en expliquant effectivement que c'est l'Europe. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce discours-là, mais par ailleurs, c'est vrai que c'est l'Europe aussi. C'est-à-dire que. On ne sort pas de ce déclin, je pense pas qu'on en sorte. On parle de l'Italie, on va voir, français aussi, ce que ça donne. Je veux dire, l'Italie fait un peu repoussoir, mais moi, je ne suis pas du tout sûr de l'évolution, alors à la française et pas à l'italienne, pas forcément avec les mêmes personnages, mais d'une dérive qui est une dérive politique relativement grave, avec une montée des populismes là aussi. Bref, tout ça est effectivement inquiétant, d'autant qu'on ne voit pas effectivement d'alternative. De perspectives qui soient des perspectives qui nous fassent imaginer qu'on puisse effectivement sortir de l'impasse dans laquelle on est. Je fais partie, moi, des gens qui ont raisonnablement voté européen. Mais vraiment, ça devient de plus en plus difficile d'être raisonnable aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de passer, de se passer tellement... l'incompétence doublée du mépris, parce que je veux dire, le discours dominant européen est un discours méprisant, y compris pour les petites gens qui sont trop cons, je vais être trivial, pour comprendre effectivement la logique qui est la logique évidente de ce que met en place l'Europe, et qui, quand on ne le comprend pas, et quand éventuellement on montre son désaccord, eh bien, on y repasse jusqu'au temps que tout le monde soit... voilà. On est en train de payer ça. Et je fais référence, bien sûr, au référendum sur le traité constitutionnel européen qui a donné lieu à une décision qui est une décision qui a été complètement bafouée. Et ça, il ne faut pas le faire trop souvent.
Pierre Laroui. Je crois qu'il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est que, alors il y a effectivement cette perte de l'idée nationale, malgré tout, qui trouble un certain nombre de personnes. Et en parallèle, par rapport à des promesses qui ont été faites, on a surtout une fracture territoriale terrible. Et si on avait besoin d'un démonstrateur, l'Italie, c'est incroyable, parce qu'entre le Nord et le Sud, c'est deux pays en termes de développement économique et social.
C'est bien la Ligue du Nord, d'ailleurs, qui aujourd'hui fait partie de l'Alliance.
Alors, ils ne s'appellent plus Ligue du Nord, hein. Ils ont supprimé du Nord, bien ça sûr. S'appelle la Ligue, tout court.
Mais elle s'est construite sur l'opposition avec le Sud.
Avec le Sud, oui. À ceci près qu'ils sont associés maintenant avec le mouvement 5 étoiles, dont le dirigeant est napolitain.
Bien sûr, mais tout ça, combinazione.
Vous voyez quand même que, je parlais du sentiment d'abandon, on a ce paysage qui est complètement mouvant, en perte de repère. C'est-à-dire que les régions n'espèrent plus le local. Vous le voyez même en France, hein, on parle de plus en plus de l'interstitiel, des problèmes dans le rural, de gens qui se sentent complètement abandonnés, et qui parfois le sont. Et il y a quelque chose quand même d'extravagant dans cette mondialisation qui tient à tout prix à faire passer le monde comme étant une concurrence entre métropoles. Et du coup, on se retrouve avec des références qui sont quand même complètement exubérantes. De Singapour à Mexico, on se retrouve avec des métropoles de plusieurs millions d'habitants et de dizaines et dizaines de kilomètres, avec des concentrations de pertes de sécurité, de pollution, etc. Et je crois, et c'est ce qui fait le lien, assez paradoxalement, entre d'un côté des gens qui sont effectivement en souffrance aujourd'hui dans des territoires un peu abandonnés, mais aussi des gens, et notamment les couches moyennes, qui se sentent complètement largués dans ce que l'on est en train de faire de leur lieu de vie. Et donc, c'est tout ce mélange où il semble qu'il y ait d'une part perte de repère et d'autre part une impression que ce qui se met en place, on ne le comprend pas bien, ça c'est au mieux, et au pire, on n'est pas dedans.
Quand on n'est pas victime systématiquement.
Voilà, et on le retrouve avec l'exploitation des données. Vous avez vu ce problème d'intimité numérique, où on s'aperçoit que les gens, au bout d'un moment, résistent sur des choses très simples en disant « Écoutez, puisque je ne suis plus dans le récit, vous n'allez pas en plus me piquer les mots qui vont vous permettre d'écrire. » Je crois que voilà, il y a une désorientation spatiale totale, une perte de repère, et effectivement, si rien ne se construit, on a là un gap qui amène au populisme. Et pour accompagner Mignard, et je lui laisse la parole, je dirais qu'effectivement, moi, je parle d'abandon, et c'est vrai qu'il y a une colère, mais ce que l'on remarque, c'est que cette colère, pour l'instant, ne prend pas la rue, elle ne se coagule pas, et c'est toujours très inquiétant, ce genre de situation, parce que ce vide, il peut être occupé par beaucoup de monde, soit parce que des gens qui ont une proposition gestionnaire arrivent à affirmer quelque chose, soit par le populisme, et on voit toutes les tendances qui s'affirment, on n'y revient pas.
Oui, en fait, c'est un grand classique. Quand on n'arrive pas à avoir du conflit politique, on a de la violence sociale, c'est-à-dire des situations qu'on est incapable de maîtriser et dont on ne garantit pas les sorties. Voilà, on est en train de vivre ça en Italie politiquement. Il me semble qu'on est en train de vivre ça en France socialement, puisqu'on n'a pas la question politique est verrouillée pour le moment, avec un système qui est un système verrouillé aussi, qui n'est pas tout à fait le même de celui de l'Italie. C'est quand même assez énorme. Hein,
c'est énorme, mais c'est inquiétant.
Bien sûr.
On a des gens, on a vu, qui sont des populistes et qui portent un programme qui économiquement est totalement aberrant et extrêmement dangereux pour les Italiens, mais pour l'Europe aussi. Et pour autant, il n'y a personne qui soit capable de leur faire pièce. Ils vont revenir aux élections. Oui. Et on sait toujours que quand on revient aux élections, mais ils vont reconduire avec certainement une plus forte majorité la Ligue.
Berlusconi servira de
éventuellement de sauveur de transitoire, mais on a eu la Grèce, on a l'Italie, effectivement, à qui la suite. Ce qu'il y a d'énorme, quand même, hein, comme ça, symboliquement au moins, c'est que le président de la République, qui en a constitutionnellement parfaitement le droit, refuse un gouvernement au prétexte et à raison qu'il y a un ministre de l'économie qui est eurosceptique, c'est un euphémisme.
Oui, c'est un doux euphémisme.
Voilà, et va mettre en place un gouvernement qui est un gouvernement technique, qui est quasiment caricaturalement ce que l'Europe peut faire de pire en termes de technocratie européenne, y compris d'ailleurs le président du Conseil, qui est quelqu'un qui est connu comme étant effectivement un technicien de ce genre de choses. C'est-à-dire que ce qui fait repoussoir, je veux dire, politiquement, c'est énorme, cette affaire-là. Hein, c'est-à-dire que ce qui inquiète et qui produit des effets qui sont des effets délétères, hein, est reconduit à l'identique, voire on renforce. Il n'y a pas... C'est le fantôme de Margaret Thatcher bouge encore. Hein. Nous avons des gens qui ne sont pas capables de penser qu'il puisse y avoir une alternative à ce qu'ils sont en train de mettre en place.
Et comme souvent, Aimé Césaire le dit très bien, toute civilisation qui n'arrive pas à résoudre les problèmes qu'elle produit sont des civilisations décadentes.
Et oui. Mais qu'on soit décadent, ça, je crois qu'on le sait. Mais moi, je reviens sur l'Italie. Comment vous voyez la suite ? Parce que si les partis populistes et d'extrême droite vont être nécessairement reconduits aux élections avec une plus large majorité, est-ce qu'ils vont ou non appliquer ce programme économique complètement farfelu ?
On a quelque chose qui s'est passé en Grèce qui peut nous donner quelques indications. Tout ce petit monde, à un moment donné ou à un autre, revient au bercail parce qu'il y a le gros bâton de la finance qui vient à un moment donné. C'est ça qu'on peut imaginer. Mais c'est-à-dire qu'on reprend de l'élan, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en Grèce, il s'est passé... C'est pas, entre guillemets, l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir en Grèce, mais c'est quand même une partie... de l'extrême gauche et d'un mouvement populaire qui n'était pas forcément canalisé politiquement et qui s'est soldé par le fait d'arriver au pouvoir et de repasser effectivement sous les fourches caudines, puisqu'on est on est dans l'Antiquité là pour le coup, de l'Europe, du FMI, etc., etc., qui tiennent d'ailleurs un discours quasiment macronien en même temps en disant les recettes qu'on est en train de leur imposer sont de toute façon des choses qui produisent des effets, qui sont des effets délétères, mais qui continuent de les proposer parce qu'il n'y a pas d'alternative. Parce qu'on est... effectivement, c'est... Là, on a des... Alors, cinquantenaire de 68 oblige. Hein, on est peut-être dans une phase dans laquelle les niveaux de contradiction produits par le système sont en train de saper les fondements du système même. Le vieux prophète avait peut-être pas complètement tort de ce point de vue-là.
Et si les fondations sont sapées, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a pas d'alternative, vous avez dit, ça ne peut plus tenir debout, les fondations sont sapées, on va vers quoi ? Vers une révolution européenne ? Vers...
Je sais pas.
Grand silence.
Non, je ne veux pas faire à l'antique, mais socialisme ou barbarie, disait. C'est un groupe qui était d'ailleurs de gens qui ont dit des choses pas du tout déconnantes sur, à cette époque-là, et même sacrément prophétiques sur ce que.
Ils étaient un peu longs.
Ce qu'on est. C'était pas du tweet ni du Facebook ou des trucs comme ça. Mais c'est pas de la rhétorique, l'histoire de la crainte. Je suis extrêmement inquiet sur...
En fait, si on ne répond pas, c'est parce que, sauf à jouer les Madame Irma, je crois que tout le monde est dans une grande expectative, parce qu'au bord du précipice, quand il n'y en a qu'un, ça va. Quand on commence à toucher l'économie italienne, c'est quand même du lourd.
Oui, ça, c'est pas...
Les conséquences... Enfin, je ne sais pas qui va jouer à quoi, effectivement... est-ce que l'Europe est en train quand même de se dire qu'il faut qu'il resserre un peu, mais perdre l'Italie, c'est un morceau important. Donc en général, effectivement, tout ça finit mal et finit de manière autoritaire et un peu guerrière.
Voilà des propos extrêmement optimistes.
On démarre une soirée extrêmement réjouissante.
Donc là, on observera ce qui va se passer en Italie, on va regarder. Est-ce que l'Italie va proposer une sortie de l'Europe ? Pareil, un peu. L'exemple anglais devrait quand même les alerter.
Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Mais c'est...
Bien, bah, écoutez, hein, on a dit tout ce qu'on pouvait dire au stade où on en est. On va observer, on va regarder. Effectivement, la décision du président Mattarella, la première à tout le monde, en disant, attendez... vous allez nous faire passer une pilule qui n'a jamais été discutée, jamais présentée aux électeurs, et constitutionnellement, il est parfaitement dans son droit. Donc, il a très bien joué son rôle. Après, effectivement, en nommant gouvernement à repoussoir, il aurait voulu apporter et bourrer les urnes de la Ligue, il ne se serait pas pris autrement. C'est assez curieux comme décision. Mais bon. Allez, à suivre, je vous propose de passer au deuxième sujet que nous avions mis à l'ordre du jour, Macron et la fiscalité. Alors, le début du président Macron de son quinquennat, on vient de passer la première année, a été marqué par une mesure fiscale, alors qui était dans son programme, il n'a rien inventé, il n'a pas sorti du chapeau postérieurement, mais une mesure qui a quand même fait, qui continue à faire couler beaucoup d'encre, la suppression de la taxe d'habitation, au moins au bénéfice de certains contribuables, ce qui avait été dit dans un premier temps, et puis ensuite peut-être de tous. Donc une mesure contestée par beaucoup, qui va déjà coûter la bagatelle de 10 milliards à l'État, et donc aux collectivités locales, puisque c'était elles qui en bénéficiaient le plus, ce que beaucoup considèrent comme un superbe cadeau fait aux propriétaires, lesquels vont en profiter vraisemblablement pour augmenter le loyer, donc ça va grimper. Un cadeau qui, d'après certains spécialistes, pourrait être, pour ces mêmes propriétaires, de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros. Par ailleurs, vous l'avez entendu, certains députés de la majorité se sont attaqués à ce qu'on appelle le verrou de Bercy, en grand mot pour dire qu'en réalité, le ministère du Budget bénéficie d'une exclusivité de poursuivre ou non les fraudeurs fiscaux devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Et le débat donc est le suivant, est-ce qu'il faut donner à ces magistrats et donc au parquet la possibilité de juger de l'opportunité des poursuites à voir. On va en débattre. Et puis, enfin, et malgré une fraude fiscale que certaines appellent pudiquement une optimisation fiscale et qui se monte à plusieurs dizaines de milliards d'euros, on parle d'à peu près 80, hein, c'est dans cet ordre-là, il ne semble pas que le président de la République en fasse une lutte prioritaire et qu'il pousse les services fiscaux à mener une politique trop agressive, tout cela vraisemblablement pour ne pas, entre guillemets, effrayer les investisseurs. Comme il a d'ailleurs fait en supprimant l'exit tax, autre mesure fiscale. Bref, comme l'a dit le président du groupe En Marche au Sénat, François Patriat, et je le cite, « La priorité de Macron, c'est l'attractivité du pays. Dans ce cadre, la lutte contre l'optimisation fiscale est secondaire », fermez les guillemets. Donc face à cette situation un peu molle de Macron sur le plan fiscal, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, par qui commence-t-on ? Pierre Larouille ?
Une remarque sur les collectivités locales, c'est pas évident, parce que a priori, il y a une compensation qui est... Alors, évidemment...
Oui, mais enfin, une compensation, on dit qu'il va y avoir une compensation qui est prévue, on ne sait pas de combien elle va être. Il y a la dotation d'État aussi, c'est quand même... Bon, il donne ce qu'il veut, l'État. Il va compenser ce qu'il veut.
L'histoire montre quand même que l'État est un très, très, très mauvais payeur, là, notamment à l'égard des collectivités territoriales.
Je ne vais pas accompagner cette vision complotiste de l'histoire. Moi, j'ai entendu le Premier ministre à la conférence des territoires dire que ça serait à l'euro près compensé aux collectivités locales. Non, mais parce qu'on peut aussi... Il y a un vrai enjeu politique, pour le coup, derrière, qui est anti-décentralisation, mais qui aussi permet de faire que les collectivités locales ne puissent pas faire n'importe quoi. On a vu certaines collectivités préparer leurs élections futures en augmentant très fortement les impôts dès qu'ils arrivent.
Oui, mais je pense que concernant cet aspect-là, comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'État macronien ne joue pas à la décentralisation et la répartition et la péréquation à l'échelle des territoires. Ce qui joue, c'est la concurrence entre les métropoles. Donc, s'en sortiront ceux qui seront assez forts pour s'en sortir, comme pour le reste, d'ailleurs. Donc, on peut s'attendre... Moi, je suis très sceptique sur le fait qu'alors, malgré... Je vais faire l'affront au Premier ministre, qui aura du mal à s'en remettre, j'imagine, de ne pas le croire quand il dit effectivement ce genre de choses-là, parce que l'État ne l'a quasiment jamais fait, chaque fois qu'il l'a annoncé. Et je pense d'ailleurs que politiquement, il n'a pas du tout intérêt à le faire, parce que qu'est-ce que ça va lui coûter, le fait que les collectivités territoriales soient en difficulté financière, puisque la logique, encore une fois, elle n'est pas tant qu'elles vivent qu'éventuellement elles se développent au plan économique, c'est un registre qui est un registre concurrentiel. Voilà, mais c'est...
Mais je crois qu'on est, effectivement, on est dans un grand doute. Ah ouais. Bon, le seul truc sur lequel je suis simplement un peu mesuré, c'est que regarder vraiment, avoir une vision fiscale tant qu'on n'a pas l'ensemble des mesures, c'est toujours un peu complexe. Simplement par un petit souci d'honnêteté intellectuelle, on peut difficilement prendre mesure par mesure. Je crois qu'on y verra clair dans un ou deux ans quand on verra ces phénomènes. Alors, de compensation
par,
ou pas.
Ça, par ailleurs, politiquement, c'est tout à fait caractéristique du gouvernement Macron. C'est effectivement de tirer à jet continu des réformes qui sont des réformes très complexes. On l'a vu sur les migrants, on le voit sur autre chose. Je pense qu'il faut... Alors, Il faut par ailleurs le mettre en perspective avec la loi Elan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la question de la taxe d'habitation, il y a aussi la question de la réforme de la loi Littoral, de la question qui est la question aujourd'hui du logement social, etc., etc. Autrement dit, on est parti pour une grande, effectivement, déréglementation, là aussi, à cet endroit-là. Alors, moi, les chiffres que j'ai, ce n'est pas 10 milliards. Hein. C'est s'ils élargissent au niveau de la taxe d'habitation à l'ensemble, c'est 19 milliards. C'est le double, c'est quasiment 20 milliards qui vont partir du budget de l'État, au passage, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 20 milliards de baisse d'impôts qu'il va falloir compenser d'une manière ou d'une autre. La question, c'est d'où ça part la compensation. Et là, moi, j'ai une petite idée, parce que dans le même temps, ce que j'entends, la petite musique qu'on commence à entendre, c'est que quand même, le budget social, il est quand même énorme par rapport à ce qu'on peut se permettre. C'est-à-dire que... Et là, je prends le pari... Je prends le pari, vraiment, alors je ne suis pas du tout un économiste, mais quand même, je prends le pari qu'on va effectivement financer une partie du manque à gagner d'un certain nombre de cadeaux qui sont des... Alors, cadeaux, des allègements fiscaux, parce que cadeaux, c'est polémique inutilement, un truc comme ça, par le fait, effectivement, qu'on va baisser... le gouvernement dit on va baisser le coût de l'État. On va rationaliser le fonctionnement de l'État, on va faire quelque chose de performant.
C'est ce que dit la Cour des comptes et son président Didier Bigot le répète assez souvent.
Bien sûr, qui commence à devenir d'ailleurs une boîte à idées un peu bizarre. Mais le
hein, c'est, ça a c'est... toujours été.
Hein, bon, mais alors là, pour le Cambon, Migaud est à. Voilà, c'est. Mais bon. Bref, mais on va contractualiser les fonctionnaires à l'éducation nationale, etc. On va rationaliser tout ça. Hein. Cela dit, 20 milliards, c'est quand même pas rien.
Il faut les trouver. Hein.
C'est pas on peut imaginer que c'est pas, ils vont pas rationaliser, parce que ça rationalise depuis un moment quand même, l'air de rien, au niveau de l'État central au moins. Donc ce qu'on va avoir, c'est un transfert qui est un transfert des budgets sur les budgets sociaux, effectivement, en direction de ce genre de choses-là, de manière, effectivement, à ce que nous ayons un pays qui est un pays compétitif.
Voilà. Très probablement.
Bref, ni de gauche, ni de gauche. Quoi.
Non, mais très probablement, néanmoins, on est bien obligé quand même d'attendre, parce que la partie fiscale ne peut pas se juger non plus à la partie croissance. Donc, enfin,
oui,
on est là quand même dans
sûr.
Une...
À la partie
on
croissance, en... en ce moment. Enfin,
quand même, oui.
Quand même.
Parce que c'était il y a deux ans.
Donc, mais, non, mais ce n'est pas ce qu'on avait annoncé dans les deux ans qui viennent, quand même.
Ce qu'il y a de clair, il me semble, je vais faire plaisir à Mignard, mais on voit bien que le président de la République, là, a un petit trou d'air, ou on va le dire autrement, qu'il flotte beaucoup. Il flotte un peu sur tous les sujets. Et il flotte quand même beaucoup, parce que Merkel ne bouge pas.
Il ne bougera pas, je crois.
On verra justement comment l'Italie peut aussi peser sur ces histoires-là, parce qu'à un moment donné, à force de tout déséquilibrer, ça peut poser problème aussi. Mais aujourd'hui, on sent bien quand même que le pari macronien, qui était quand même de déplacer un certain nombre des mesures de l'Hexagone sur une partie européenne avec des relances d'investissement, etc., on sent bien que pour l'instant, ça ne fonctionne pas et que du coup, il manque l'huile dans le moteur. Et effectivement, je sais pas, on le sent bien même dans ses propos et dans sa manière d'intervenir. Il est temps que l'été arrive pour lui parce qu'il a visiblement un moment un peu difficile.
Est-ce que vous pensez que sa position...
Il n'est pas le seul. Pardon,
oui, il n'est pas le seul. Mais est-ce que vous pensez que sa position, que je rappelais dans mon propos liminaire, de dire... on ne va pas trop mettre l'accent sur les contrôles fiscaux parce que ça peut effrayer les gens. Est-ce que ça vous semble une position techniquement intelligente?
Ouais, enfin, moi, tous ces trucs, je crois que c'est vachement intéressant pour le canard enchaîné, mais je crois que tout ça au niveau de Bercy ou sur les grandes masses et tout ça, j'y crois pas beaucoup, sincèrement.
Bah, c'est cohérent avec le discours politique, je veux dire, quand on veut préserver les premiers de cordée, on regarde pas trop ce qu'ils ont dans le sac à dos. Alors, c'est vrai que ça peut être anecdotique.
Protéger les premiers de cordée, M. Bolloré, par exemple, actuellement, je sais pas s'il se sent protégé, mais enfin, c'est un peu bizarre, quoi.
Ah, c'est effectivement... mais peut-être qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés au bout de la logique qu'ils pouvaient développer. C'est, voilà. Après, moi aussi, je ne suis pas très fan de la dénonciation d'un certain nombre de journaux satiriques sur le fait qu'il y a des gens qui s'engraissent. Mais ce que je constate, effectivement, c'est que la théorie du ruissellement défie les lois de la gravitation universelle en ce moment. Voilà,
oui, le ruissellement. Bon.
Et que le ruissellement, voilà, c'est, qui ferait qu'on protégerait... Mais je pense qu'on protège... qu'on protège pour des raisons techniques, pour des raisons idéologiques, des raisons techniques y compris, sur le fait que c'est vrai qu'on ne les poursuit pas. Hein, mais on ne les poursuit pas parce que si on les poursuit, ça coûte plus cher que si on ne les poursuivait pas, sauf à ce qu'on donne les moyens à la justice de faire son travail concrètement.
Alors, voilà, on revient au fameux verrou de Bercy sur lequel. C'est très curieux parce que d'un côté, on dit ben, on ne met pas le pied sur l'accélérateur du contrôle fiscal. Et de l'autre côté, on parle du verrou de Bercy, on s'excite là-dessus. Quelle est la logique ? Parce que le verrou de Bercy, c'est quoi ? C'est tout simplement que l'administration fiscale a l'opportunité des poursuites pénales. L'administration fiscale n'aime pas trop aller au pénal parce que ça coûte cher, parce que c'est long, parce qu'il y a des avocats qui se battent. Hein, quand même, bon, il faut qu'ils embauchent des avocats pour se faire représenter à l'audience. Il y a un cabinet qui s'appelle le cabinet Charlemagne et qui le fait avec beaucoup de talent, mais j'imagine qu'il coûte aussi quelques sous. Et au final, ça ramène quoi ? Ça ramène quelques années de prison avec sursis ? Une amende ou deux, mais ça va guère au-delà. Oui. Alors que l'administration fiscale, elle, une fois qu'elle a engagé sa procédure, elle va quand même au bout, elle saisit, elle y met parfois du temps, mais elle saisit, elle fait un peu rendre gorge aux fraudeurs. La partie pénale n'apporte pas grand-chose derrière. Alors certains n'ont pas envie de se préfèrent payer plutôt que se retrouver sur le banc d'infamie, parce que c'est vrai que le tribunal correctionnel n'a rien d'agréable et on est en compagnie de gens
peu recommandables.
Voilà, une population assez mélangée, on va dire, pudiquement. Mais je vois pas trop pourquoi tout le monde s'excite là-dessus et pourquoi on met ça sur le devant de la scène.
J'ai l'impression surtout qu'on est arrivé peut-être à la fin, effectivement, d'un cycle ou de je ne sais pas trop quoi, parce que, sortons deux secondes, puisque c'est d'actualité, le glyphosate hier, c'est le même sujet. C'est pour toutes les raisons politiques, on a envie de dire on arrête. Mais face aux agriculteurs, on est obligé de trouver une solution intermédiaire. Alors, tant qu'on n'est pas au gouvernement, il n'y a aucun souci, c'est assez facile. Mais on a vu qu'il n'y en a pas un quand même qui arrive une fois qu'il est au pouvoir. Donc je crois qu'on a atteint surtout une complexité du système où on ne sait plus prendre des mesures radicalement.
Le système, la situation est complexe. Et peut-être qu'un des éléments aussi, c'est qu'il n'y a plus de solutions intermédiaires, il n'y a que des solutions binaires. Parce que c'est la caractéristique d'une fin de cycle, justement.
C'est-à-dire
que les glyphosates, à un moment donné, c'est oui ou c'est non, quoi. Je veux dire, on ne peut plus temporiser parce qu'on est arrivé au bout d'un cycle politique, économique, écologique.
Mais c'est et non. Pas seulement en France, mais aussi en Europe.
Bien sûr.
Parce que si on se met à dire aux paysans français qu'ils ne les ont plus, c'est un tout petit peu complexe. Quand même.
Ce qui se passe au niveau du riz, alors je ne sais pas si vous avez écouté, j'ai fait un reportage en Camargue où je suis allé passer une heure avec le président des riziculteurs qui m'a expliqué que lui, eh bien, la plupart des produits qu'il ne pouvait pas utiliser, les petits camarades italiens les utilisaient sans vergogne et sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Donc non seulement ils ont des aides qui sont rabiotées par rapport à celles des autres, mais en plus ils sont mis en difficulté sur la concurrence et sur la culture puisqu'il y a des produits qu'ils ne peuvent pas utiliser. Et donc les rendements s'en ressentent.
Oui, alors après, sur le verrou de Bercy, mais il me semble que c'est un autre élément du contexte politique dans lequel on est, qui est, moi j'ai envie de dire, qui est assez cosmétique, c'est-à-dire qu'il faut quand même montrer qu'on abat le vieux monde, quoi, hein, et qu'on abat le vieux monde pas que du côté du statut des cheminots. Voilà, c'est parce que ça fait très très mal quand le canard enchaîné raconte ce genre de choses-là que politiquement il est certainement important de faire semblant de s'attaquer.
Mais c'est de la com, c'est de la com pure et simple. Mais ça n'a aucun fondement technique.
J'ai la faiblesse de penser que 80% aujourd'hui des décisions qui se prennent sur cette base-là, parce que le reste, ça vogue quand même un petit peu et ça surfe sur ce qui est possible.
Mais je vous renvoie à l'interview de Régis Debray sur France Culture il y a quelques jours.
Avant-hier,
où il dit qu'effectivement, les hommes politiques sont des rockstars aujourd'hui et sont plus pris sous la forme de
communication.
Voilà. Mais c'est en réalité, c'est on peut dire que c'est de la communication, mais c'est surtout qu'on est dans un jeu de rôle où effectivement. C'est plus le casting qui compte que le scénario.
Oui, mais ça, c'était l'ancien monde. Macron nous a vendu un nouveau monde différent. Oui. Et finalement, on est toujours avec les mêmes règles et les mêmes méthodes.
Non, mais le nouveau monde, prenons un exemple. Le nouveau monde, c'est l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on voit sur les fractures territoriales, ce que l'on voit dans le ressentiment des populations, mais vous allez faire comment avec l'intelligence artificielle ? Vous allez imposer comment ? Vous allez faire adhérer comment ? Alors que les gens sont en plein sentiment de spoliation sur les données.
C'est le syndrome Linky, c'est ça ?
On en parlait hors antenne et avant de démarrer sur ce fameux syndrome Linky, oui.
Oui, c'est quand même très intéressant de voir que sur des sujets qui touchent finalement à ce qui devrait être le progrès fédérateur de la période. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas... Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est au cœur de tout ce qui va se construire dans le monde sur le plan industriel et sur le plan des usages. C'est quand même extraordinaire d'avoir un pays comme la France où vous avez un consensus, effectivement, on fait allusion au Linky. Je crois que ce n'est pas tellement le problème de ce compteur, en fait, qu'il y a des problèmes comme les autres. C'est le fait qu'on a trouvé une nomination comme il est imposé. Les gens disent on va commencer par celui-là. Et moi, je suis très troublé de voir, je le racontais hors antenne tout à l'heure, d'aller dans un petit village des Hautes-Pyrénées et d'entendre une pétition. Il y a 30 habitants. Je pense très sincèrement que la spoliation des données des gens en question, que je connais un tout petit peu, n'était pas le cœur, normalement, de leur problème. Seulement, ils résistent là-dessus parce qu'en réalité, au bout d'un moment, dans ce sentiment d'abandon, il faut résister. Et de l'autre côté, je m'aperçois, puisque j'ai commis un petit article là-dessus, des réactions de mes amis sur les réseaux sociaux... où je découvre qu'ils refusent tous Linky chez eux.
Oui, moi, le premier, par principe, d'ailleurs.
On peut prendre 2 minutes sur Linky, parce que je pense que c'est... c'est pas que le Sandy Band abandonne, c'est la méfiance aussi. Ça m'intéresse d'en parler, parce qu'il se trouve qu'à la Ligue des droits de l'homme, on a été interpellé il y a plus d'un an de ça, j'étais secrétaire général à l'époque, sur le compteur Linky. Très tôt, on a été interpellé. En disant, alors, sur deux axes qui étaient la question des électrosensibles, des gens qui sont sensibles aux ondes qu'émet le compteur, et le deuxième axe qui est celui des données, qui sont des données, des indications un peu, que donnerait ce compteur et qui permettrait, alors on a entendu de tout, de vérifier si dans une maison, il n'y aurait pas un surnombre, y compris si des gens accueillaient des réfugiés, que ça pourrait vérifier ce genre de truc.
On peut assez loin.
Voilà. Dans ce que nous, on a dit à un moment donné, c'est peut-être...
Il y a mieux que Linky pour ça.
Voilà, c'est bien sûr. Enfin, nous, ce qu'on pense, c'est que nous qui pratiquons ce genre de langue, on sait qu'ils ont des outils infiniment plus efficaces.
Ça veut dire qu'on devient parano ?
Ça veut dire, je pense, qu'il y a une méfiance qui est une méfiance. On parlait de l'Europe tout à l'heure et du fait que, effectivement, les gens se sentent délaissés, mais au-delà du fait de se sentir délaissés, c'est que chaque initiative qui est prise est une initiative qui paraît douteuse, dangereuse, et portant atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux, tellement par ailleurs, c'est vrai que ça existe. Alors nous, on est allé interpeller l'ex-EDF là-dessus, en leur disant, vérifions quand même. On a eu un certain nombre de garanties. Il y a un très bon article à ce point de vue dans le dernier Alternative économique sur Linky. Voilà. Au-delà de l'excellent article de Pierre Larouille sur la question, bien sûr.
Qui fait autorité, d'après ce que je me suis laissé dire de Pierre Larouille. Oui.
Voilà. Et on voit bien que c'est la question qui est la question du refus catégorique de quelque chose qui est vécu comme de l'intrusion, comme de la surveillance, alors que ça n'a pas forcément lieu d'être. Et c'est ça qui explique que le... Et alors c'est très marrant, comme ça, anecdotiquement, les premiers endroits qui nous ont interpellés à la Ligue des droits de l'homme ne sont pas du tout des endroits qui sont des endroits des grandes métropoles, des trucs comme ça. C'est la presqu'île de Crozon je ne sais pas si vous connaissez. C'est des militants comme ça là-dessus qui ont dit nous et qui ont été faire de lance de ce genre de choses-là.
Ça vaut la peine de fouiller un peu l'histoire parce qu'effectivement, il y a une perte de confiance qui est totale. Mais cette perte de confiance, il faut aller plus loin quand on dit ça. Parce qu'on est quand même dans le monde, on est rentré dans le monde des réseaux sociaux du numérique, et où globalement, le discours des experts, on s'assied dessus, il n'y a plus de référent, le discours politique est discrédité,
oui, oui.
Il n'y a plus de tiers de confiance. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez vu, quand on a commencé même à parler du transfert, le Premier ministre dit « je vais compenser », vous-même, vous avez dit tout de suite « oui, ils ne le feront jamais ». Donc on est quand même systématiquement pris dans une sorte de... Et ce n'est pas forcément faux, mais il y a une ambiance qui est
ah « oui,
on ne croit pas ». Et alors, comme derrière, il y a des mecs qui effectivement racontent à peu près tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, avec tous les fakes qu'on peut construire aujourd'hui, on est vraiment sur... C'est pour ça que je disais que ce n'est pas tellement Linky, c'est qu'est-ce que ça représente, Linky. Et effectivement, c'est commun à des gens extrêmement différents, pour des raisons très différentes. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il n'y a aucune pédagogie qui fonctionne par rapport à ça. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est, je ne dis pas que c'est vrai, on peut le critiquer. Néanmoins, pourquoi au départ on dit que Linky, ça ne serait pas si mal? C'est parce que normalement, on essaie de faire des modèles de transition énergétique et d'économie à la fois pour les énergéticiens, mais aussi pour les citoyens. Or, vous voyez bien que nous ne pouvons pas mettre en place des modèles d'intelligence artificielle puisqu'ils sont rejetés a priori. Nous sommes bien dans un système où nous rejetons la technologie qui est censée être celle de l'avenir. Donc, je crois qu'on a un vrai souci pour le
dernier, coup, dernier élément là-dessus, quand même, sur le. Il y aurait des heures à en parler, sur Linky, par exemple. C'est d'autant plus. Les gens se méfient d'autant plus que ça a été fait de la pire des manières qui soient. Ça a été fait à l'inverse, cette affaire-là. C'est-à-dire que nous, on a dit aux gens qui étaient responsables de ce truc-là, dialoguer. Expliquer, soyez pédagogue, rencontrer tout et tout. Et là, on aurait dit le président du Conseil général du Tarn quand il parlait de Sivens. Ils incarnaient l'intérêt général qui transcende les intérêts particuliers et qui les autorise à imposer un certain nombre de choses, y compris de manière complètement autoritaire. Et derrière, ça bloque. Enfin, ou du moins derrière. En face, ça bloque. Hein, alors que ça aussi, il y a une... On est quand même confronté dans une situation dans la complexité. Quand je dis « on », moi, je le vis. Je pense que beaucoup de gens le vivent. On navigue à la fois entre... Le marché le plus débridé, dans lequel la décision se prend à l'opportunité et à l'intérêt individuel, et à des moments donnés, avec des choses qui sont d'une violence inouïe au niveau de l'autoritarisme. Je ne dis pas d'autorité, pour le coup, qui sont de l'autoritarisme. Linky, ça a fonctionné. Or, l'autorité, c'est vieux comme le monde. Enfin, ce n'est pas vieux comme le monde, mais c'est vieux depuis quelques années. L'autorité, ça se mérite. Avant, ça se transmettait et ça se l'inquiétait. Maintenant, ça se mérite.
C'est vieux comme le débat entre les Lumières et les Romantiques. Hein.
Oui, 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 oui.
À partir du moment où le sujet s'autorise qu'on est bien dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de langue politique fédératrice supposée quand même qu'on est tiers de confiance et que la parole, normalement, d'un élu devrait être celle de l'intérêt. Et qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? C'est que... Dès qu'il s'agit de décisions globales, revenons sur Linky, le politique ne peut même pas s'exprimer. Il laisse faire les 10 et il ne veut surtout pas se mouiller. Mais sur le plan local, les élus prennent le parti des électeurs. On a vu le maire de Blagnac récemment. Mais parce que chaque élu a compris qu'il ne pouvait pas lutter contre les états d'âme de la population.
Oui. Dernier point, et la boucle est bouclée par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment épouvantable. L'argument politique final étant de dire ce n'est que la déclinaison d'une directive européenne, on n'y peut rien.
Exactement.
Voilà,
et la boucle est bouclée.
Et tout est dit.
Je crois que voilà, tout, absolument, tout est dit. Donc on reparlera certainement de ce fameux compteur.
C'est le nom italien, non ?
Ah oui, ça doit venir de la péninsule. Allez, je vous propose de passer à notre anti-pénultième rubrique, les brèves. Alors, je commence, moi, par la saturation des prisons, puisqu'on nous dit toujours que nos juges sont laxistes, on nous dit qu'on ne condamne pas assez, on nous dit qu'on les laisse ressortir sitôt arrêtés, mais enfin, il y a quand même 70 000 détenus, donc ce qui est un record, hein, je pense que Jean-François Mignard s'est déjà penché sur la question. Et 30% de ces détenus, il faut le savoir, proviennent de gens qui sont a priori présumés innocents, qui sont là soit pour de très courtes peines, soit en attente de jugement, ce qui, avec une augmentation ces temps-ci de 9%, donc, ce qui est extrêmement inquiétant. Et alors qu'on nous a, on nous dit, mais là aussi, effectivement, c'est pas suivi des faits, que l'objectif du législateur, c'est plutôt de faire de la prison la mesure du dernier recours. Il y a d'autres techniques, d'autres solutions, apparemment, on ne les applique pas. En dehors du fait, évidemment, que ça entraîne cette surpopulation carcérale, nous amène à être condamnés régulièrement, la France.
Par la Cour européenne des droits de l'homme.
Voilà, et nous sommes, pour les inventeurs des droits de l'homme, effectivement, enfin, on se parfume de ce titre, voilà, supposé. Je trouve que ce n'est pas très, très brillant. Les juges et les avocats devraient peut-être commencer à réfléchir autrement. Mmh. On fait un tour de table là-dessus, sur les brèves
Sur les brèves, moi, j'ai une brève comme ça. On aurait pu croire qu'on allait peut-être avancer un peu sur la question qui est la question du traitement des politiques publiques en direction des quartiers d'habitat social, dit plan Borloo. C'est loupé. Je pense qu'on est en train de continuer à faire monter la quantité de produits détonants dans les poudrières que sont les banlieues. C'est assez calamiteux. Moi, je suis pas très séduit par Borloo. J'ai lu attentivement le plan Borloo tel qu'il était proposé.
C'est un cocaïnomane de la dépense publique, a dit Macron.
Oui, oui, c'est sûr que en tout état de cause, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que on n'a pas fini de voir les voitures brûlées, de voir des jeunes se détruire au pied des immeubles, et de fabriquer de la violence, qui est la violence sociale. C'est vraiment terrible.
Pierre, sur une brève ou deux.
Une brève, parce que je crois que ça vaudra la peine d'y revenir. Moi, je m'apprêtais à parler de Linky, mais je crois qu'on l'a un tout petit peu fait. Mais j'ai été troublé dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée il y a deux jours, parce que sur l'alimentation, il y a eu de tout. Il y a eu le glyphosate, mais il y a eu le plastique, il y a eu de tout. Alors, il y a un sujet qui monte, alors quand on est des Occitans convaincus, ça nous trouble encore plus. C'est tous les problèmes de la montée sur les choix des protéines non animales. Et on a vu l'Assemblée refuser d'imposer qu'il y ait un double choix, qui pourtant aurait le mérite de régler éventuellement un problème de choix de certaines personnes, peut-être de diététique, accessoirement d'écologie, et éventuellement religieux.
Oui.
Néanmoins, c'est pas passé l'amendement. Et curieusement, pourtant, j'ai vu même des députés, il m'a semblé, de la majorité le déposer. Alors, c'est un sujet de débat. Je ne sais pas pourquoi ça a été rejeté, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas imposer. Mais enfin, imposer un choix, ce n'est pas finalement méchant. Alors, je ne sais pas combien ça coûte. En tout cas, je sens que ce sujet est en train de monter en puissance. Et je ne suis pas certain qu'il y ait une grande différence entre la discussion que nous avons eue sur Linky, la discussion que nous avons eue sur l'Italie, et la discussion qui a lieu aujourd'hui sur l'alimentation. Il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'une fracture profonde dans les comportements individuels et les psychosociologies et les comportements qui, je crois, ne vont faire que s'exacerber.
Alors, autre brève sur le Venezuela. Le Monde a titré Nicolas Maduro gagne, le Venezuela perd. Bon, c'est un peu ça. Alors, peut-être que ça réjouit Monsieur Mélenchon, je ne sais pas, mais en tout cas, le Venezuela plonge. Ils sont certainement beaucoup plus malheureux que nous le sommes. Ils ont une inflation qui atteint en 2018 4000%, ce qui est absolument colossal. En 5, les prix doublent quasiment chaque mois. Ces gens, les magasins sont vides. En 5 ans, le produit intérieur brut a fondu de 45%. Alors qu'ils sont assis sur une production de pétrole qui pourrait être considérable, puisqu'ils ont les plus grandes réserves au monde, quand même, ce qu'on ne dit pas.
Ce qu'on appelle à l'école une économie de rente.
Voilà, une économie de rente, comme l'aurait dit savamment notre économiste Pierre Larrouille. Et donc, ils sont tombés sur cette production de 2,8 millions de barils par jour à 1,5 million. Qu'est-ce qui va se passer? Où vont aller ces gens? Là aussi, on peut craindre énormément pour ce pays qui avait tout pour se développer et pour être un des moteurs de l'Amérique du Sud. Autre brève dont vous voudriez nous faire profiter, non ?
Non, tout est long.
Bon, alors si les brèves sont longues, passons à notre avant-dernière séquence, le fameux « ça va mieux ». Donc, bah, pour moi, le ça va mieux. Au moins, on a eu une bonne nouvelle ce week-end. C'est la libéralisation de l'avortement en Irlande, dans un pays où le catholicisme est quand même très, très bien implanté, où il avait verrouillé depuis fort longtemps cette question. Et ce verrou a sauté. Eh bien, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter pour nos amis irlandais. Pierre Mignard.
Non, pas Pierre Mignard.
Jean-François. Mais non, il y a plein de Mignards dans la famille, on ne sait plus où on en est.
Il y a un Pierre aussi, oui. Je souscris au ça va mieux en Irlande et j'espère que ça ira mieux en Pologne. Voilà, c'est sur cette question-là.
C'est peut-être plus mal parti en Pologne, oui, malgré le fort désir d'une frange de la population qu'en Irlande.
Hein. Oui, je pense, c'est pour ça que je pense que ça va être plus compliqué en Pologne que ça a pu l'être en Irlande, parce qu'en fin de compte, quand on regarde les chiffres, c'est 70%. Bon, je veux dire, c'était pas. Là, encore une fois, la société avait devancé la loi. Moi, j'ai un ça va mieux qui est un ça va mieux pas du tout sympa.
Ça va mieux alors.
Si, c'est ça va mieux, mais pour moi, ça va mieux. C'est la mise en examen d'Eric Woerth qui est, je trouve que ça va mieux dans l'assainissement très long et très difficile qu'on peut avoir concernant des pratiques qui sont des pratiques absolument déplorables.
C'est un vertige.
Hein, c'est méchant de ma part, effectivement, de me réjouir. Moi, quand j'étais petit à l'école, on me disait c'est mal de se réjouir du malheur des autres. Mais je pense que c'est bien pour nous. Alors, Eric Woerth, moi, j'ai rien particulièrement contre lui. Je dois avouer que j'ai rien pour non plus. Hein, mais je trouve que c'est de salubrité publique que ces choses-là arrivent, parce que ça commençait à desservir, pour le coup, la politique et le fonctionnement politique.
Une belle émission Cache Investigation la semaine dernière, je crois, avec Élise Lucet sur le financement de la campagne de Sarkozy.
Oui,
on 2007, y est là. Hein.
Oui, bien sûr, c'est
la campagne de très, très beau boulot de journaliste, de vrai journaliste, avec un grand J pour le coup.
Oui.
Et c'était quand même assez éclairant. Et quand on a entendu ça, on va se coucher en se grattant la tête.
Hein. Oui, mais ce que je trouve, c'est que pour une fois, la justice avance un peu de ce point de vue-là, alors qu'on pourrait, hein, on pourrait craindre. Voilà,
elle doit avancer puisque les prisons sont pleines et plus que pleines, elles explosent.
Je ne suis pas sûr que ce soit au bénéfice de la justice de remplir les prisons.
Le ça va mieux de Pierre Larouille.
Je vais le tourner, mais parce qu'on n'a pas dit ça tout à l'heure quand on parlait de l'Italie, alors je vais retourner. Ce n'est pas très correct. Je dirais que ça va mieux parce que le gouvernement italien n'a pas pu se former. Et il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas cité ici. Qui respire un très mauvais air, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on entend qu'un gouvernement ne peut pas comporter le franc-maçon. Ça rappelle quand même des souvenirs un peu.
En tant que Français, ça nous rappelle des choses.
Oui, en général, ça n'annonce pas des jours heureux.
Non. Oui, et bon, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on est tous un peu perplexes, voire un peu inquiets pour nos amis italiens. Dernière séquence, la séquence culturelle que je vais ouvrir, puisque j'ai la parole, ce qui est bien commode. Alors moi, je vous annonce des dates qui vous pourrez peut-être retenir, le 8, 9 et 10 juin, si vous avez envie d'aller en Catalogne française, vous allez au Barcarès, vous irez sur un superbe bateau qui est échoué, mais pour autant qui est superbe, qui s'appelle le Lydia, et vous y verrez, vous aurez le 3e salon du polar et de l'aventure. Donc romans, BD, dédicaces diverses, donc réservez la date et je vais dire venez nous voir parce que évidemment j'y serai et pour animer les tables rondes et pour signer mes livres, mais je serai entouré d'auteurs extrêmement sympathiques et talentueux, donc si vous ne savez pas quoi faire,
courons-y,
il fera beau certainement parce qu'il fait toujours beau en Catalogne, les 8, 9 et 10 juin sur le Lydia, donc le vendredi, mais surtout les 9 et 10 qui sont le samedi et le dimanche. Jean-François.
À la même date, le 7 et le 8 juin, ce n'est pas en Catalogne, c'est à Toulouse, c'est au conseil départemental de la Haute-Garonne, le grand chapiteau qui est en bas. Il y a deux jours comme ça qui sont organisés par le Tactique Collectif sur la thématique « Culture des immigrations et d'outre-mer ». De la mémoire au patrimoine commun.
Quand on a fini le titre.
Ouais. Alors c'est vrai que ça fait un peu
non,
long.
Non, c'est très bien. Ouais.
Mais je pense qu'il y a deux jours comme ça là de débats, de films sur comment peut-on passer de la de la mémoire collective, voire communautaire, à quelque chose qui peut faire histoire et lien social. C'est, allez-y, moi, je dis ça, je ne pourrais pas y aller parce que je suis à Paris, mais vraiment, j'y serais allé. Mais sinon, si vous ne pouvez pas aller là, vous pouvez éventuellement aller en Catalogne.
Oui, mais ce chapiteau fonctionne bien, il s'y passe des choses. Moi, je vais vite, mais le 5 juin, à l'hôtel d'Assesa, pas très loin, dans le magnifique hôtel d'Assesa, projection vernissage du film sur Adam Smith de Catherine Aïra, qui a beaucoup de talent, une jeune cinéaste toulousaine, et du cher professeur Alain Alcouf, qui écrit aussi un livre sur Adam Smith, dont il semble vouloir dire qu'il n'était pas si libéral que ça.
Et puis écoutez, nous irons l'entendre, c'est quand même pas très loin. Donc vous avez trois propositions, deux très proches, une un peu plus lointaine, mais ensoleillée, puisqu'à Toulouse, nous n'avons pas vu le soleil depuis fort longtemps. Allez, on a commencé avec lui, Philippe Ross, une dernière pour la route. Voilà, si ce que vous écrivez est basé sur l'expérience, alors d'une façon ou d'une autre, vous devez vous pencher sur vous-même. Fermez les guillemets. Voilà, merci Pierre Larouille, merci Jean-François Mignard. Vous voyez là, j'ai bien dit Jean-François Mignard. C'était Ça va mieux, une émission de Jacques Lavergne avec à la réalisation Jean-Louis Arzac. Une émission que vous allez bien sûr pouvoir retrouver sur la page Facebook, mais sur le site internet. Vous en aurez le podcast à disposition bientôt. Vous pourrez même la retrouver demain entre 11h et midi en rediffusion. Belle soirée à toutes et à tous et nous nous retrouverons vraisemblablement, si tout va bien, dans une quinzaine de jours. Bonsoir à toutes et à tous.